Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. » Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été né aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et à présent, je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. » Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons passé cette semaine la mi-carême, jeudi dernier. Les enfants ont été au carnaval aussi hier dans les écoles. C'est comme une mi-temps d'un match. Quand on est au milieu du temps qui nous est imparti, eh bien on prend un temps pour se reposer, se reconcentrer et peut-être pour changer de technique, changer de tactique, de défense, d'attaque. Et nous pouvons faire un examen de conscience, nous aussi, au milieu de ce carême. Où en suis-je dans mon carême? Est-ce que je me suis lancé vers la fête de Pâques? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Qu'est-ce que je peux continuer? Le Seigneur nous pose la question aujourd'hui. Et je voudrais, avant de revenir sur l'Évangile, nous rappeler un peu les buts du carême. Nous connaissons bien les trois moyens du carême qui nous sont donnés le jour du mercredi des cendres, le jeûne, la prière et l'aumône. Mais quels sont les buts finalement du carême? Il y a là aussi un triple but dans notre carême. D'abord, le carême est un temps pénitentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un temps privilégié pour nous tourner vers le Seigneur et lui demander pardon pour nos péchés et recevoir de lui sa miséricorde. Le deuxième temps, le deuxième but, c'est que c'est un temps baptismal, le temps du carême. Nous allons vivre tout à l'heure la troisième étape vers le baptême des enfants qui se préparent à recevoir ce sacrement. Et nous, comment allons-nous renouveler les promesses de notre baptême à la vigile pascale? Car c'est le moment central de notre année. Ce n'est pas l'anniversaire de notre mariage, ni même l'ordination. Ce qui est premier dans chaque année, chers frères et sœurs, c'est que nous renouvelons à la vigile pascale nos promesses baptismales. Allons-nous arriver à cette vigile pascale et répondre par « je renonce trois fois et je crois » à l'habitude ou avec un cœur renouvelé? Nous ne pouvons pas arriver à Pâques la bouche en cœur si nous n'avons pas d'abord fait ou refait cette expérience de la nécessité de Dieu dans notre vie. Et le temps du carême est ce temps privilégié qui nous rappelle la dignité du baptême. Nous sommes faits enfants de Dieu. Comment en vivons-nous? Et c'est le troisième but du carême. C'est un temps de vie chrétienne plus intense. Je prends souvent cette comparaison en me disant que souvent on est prêt à de grandes résolutions pour réussir un tournoi, un match ou un concert si l'on est musicien et on se donne les moyens de ne pas faire de canard, de bien jouer, de moins mettre notre équipe, si nous faisons un sport collectif, dans l'embarras. Et nous ne ferions pas la même chose pour notre vie chrétienne. Nous ne prendrions pas les moyens de recevoir le salut en Jésus. Alors au milieu de ce carême, nous pouvons nous remettre devant les yeux ces trois buts, un temps de pénitence, un temps baptismal et un temps de vie chrétienne plus intense. Et il est bon pour nous aujourd'hui d'accompagner ces enfants qui vont vivre l'étape que l'on appelle des scrutins, qui est cette ultime étape avant le baptême. Les scrutins, qu'est-ce que cela veut dire ? Un dictionnaire donne cette définition. Scruter, c'est regarder attentivement quelque chose ou quelqu'un en cherchant à déceler ce qui est peu visible ou caché. Scruter l'horizon, on cherche à apercevoir ce qu'il y a au loin. Le scrutin évoque d'abord ce qu'on a entendu dans la première lecture. Ce que nous avons entendu dans la première lecture, les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur scrute le cœur. Cette étape du scrutin montre que c'est le Seigneur qui nous connaît chacun, mieux que nous-mêmes, mieux que nos voisins. Il sait quels sont nos péchés, quelles sont nos grâces, quelles sont nos forces. Et cette étape, pour les catéchumènes, les renforce. Et le Seigneur leur dit par cette étape combien il les aime, combien chacun a du prix à ses yeux. Et nous, baptisés, qu'avons-nous à voir là-dedans ? Eh bien, c'est un rappel pour nous de nous rappeler que le Seigneur connaît aussi notre cœur, que nous n'avons pas à douter, que nous n'avons pas à nous inquiéter du Seigneur, mais que nous avons à mettre notre foi en lui. La deuxième chose du scrutin, c'est que le futur baptisé, et ce sera la suite et l'ultime étape de la préparation, le baptisé est amené à discerner, à juger, à entrevoir entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, pour choisir évidemment la lumière et le bien. Et cette étape, avec l'imposition des mains, un geste qui est les plus traditionnels, puisqu'il remonte au tout premier temps de l'Église, l'imposition des mains rappelle ce que Jésus a fait lui-même dans l'Évangile. Il a imposé les mains pour chasser les démons, pour guérir, pour invoquer la miséricorde, et ce que nous allons faire dans un instant avec les enfants. Enfin, je voudrais nous inviter à contempler cet aveugle né dont nous venons d'entendre le récit dans l'Évangile. Nous allons brièvement resuivre son itinéraire, dans lequel chacun peut se retrouver. Il y a une caractéristique commune et qui n'est pas anodine. Il nous est dit d'abord que cet aveugle est né aveugle, justement. Ce n'est pas accidentel. Il est né avec cette cécité, avec cette impossibilité de voir. Et la première chose, c'est qu'il est vu par Dieu. Il est vu par Jésus, cet aveugle. Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Cet aveugle, c'est chacun de nous, frères et sœurs. Nous sommes aveuglés par notre péché. Mais Jésus se penche sur nous. Il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas vue de Dieu. Il n'y a pas une personne en qui Dieu ne met pas ce don de croire en lui dans son cœur. Car Jésus, mystérieusement, ne lui rend pas la vue tout de suite. Il l'invite à aller se plonger dans la piscine de Siloé. Il y a d'abord cette initiative divine que Dieu nous voit. Il y a ensuite cette invitation à faire confiance, c'est la foi. Cet aveugle aurait pu ne pas aller à la piscine de Siloé. De la même manière, nous pouvons, nous, répondre ou pas à l'appel du Seigneur. L'aveugle est libre, libre d'aller se baigner, et nous sommes libres de répondre à Dieu et d'aller nous laver, nous relaver à la piscine de la miséricorde, la piscine du baptême. Il est vu de Dieu, il est invité par Dieu, puis une fois qu'il est guéri, qu'il retrouve la vue, il est invité à rendre témoignage. Et nous avons entendu ce long évangile qui nous montre que ce n'a pas été facile pour lui. Il doit rendre des comptes sur ce que Dieu a fait pour lui, au sein même du peuple de Dieu. On se moque de lui, on ne veut pas le croire. Ce que Dieu a fait pour lui l'expose même à être exclu. On nous dit qu'ils avaient pris la décision d'exclure de leur communauté ceux qui disaient que Jésus était le Christ, tout simplement. Vivre du Christ, vivre en chrétien, nous expose, c'est vrai. Jésus nous a prévenus. Il expose même notre famille. Cet aveugle, on convoque même ses parents pour lui dire « Mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il était vraiment bien aveugle? Est-ce qu'il ne nous raconte pas des salades ?» Non, même sa famille est mise en accusation. Évidemment, nous voyons bien le lien avec ces chrétiens qui sont aussi aujourd'hui martyrs de bien des manières. Ces chrétiens persécutés parce qu'on ne veut pas croire à leur témoignage de foi comme cet aveugle qui pourtant, eh bien, se laisse faire et n'a fait que recevoir de Dieu la miséricorde. Et puis cette dernière étape, il rencontre Jésus. Ce n'est que plus tard que l'aveugle voit Jésus. Ce n'est pas au début, ce qui est curieux d'ailleurs. Mais dans l'évangile, cet aveugle ne voit Jésus qu'à la fin. Jésus lui dit « C'est moi le Fils de l'homme ». Et à ce moment-là, l'aveugle dit « Je crois ». Son acte ultime de foi explicite n'arrive qu'à la fin. Mais sans s'en apercevoir, il a déjà témoigné du Christ en ne rejetant pas ce que Dieu avait fait pour lui. Cet itinéraire que nous venons de nous réapproprier, c'est celui particulier des catéchumènes, évidemment, qui, pas à pas, arrivent à la foi en Jésus, mais c'est aussi le nôtre. À divers moments de nos vies, nous sommes parfois dans la nuit de la foi. Nous sommes parfois dans le témoignage. Nous sommes dans la confession explicite et nous n'en avons pas peur. Parfois, nous en avons peur. Nous sommes dans la rencontre du Christ. Alors, rendons grâce à Dieu pour ce don de la foi. Demandons-lui d'ouvrir notre cœur à sa lumière et à sa joie, pour qu'en fuyant les ténèbres, le mal, la tristesse, nous poursuivions ce carême avec générosité, ferveur, vers la nuit de Pâques, où, au cours de cette nuit, nous serons soit illuminés par le baptême, soit invités à renouveler les promesses de notre baptême.